c'est bon, j'ai dit.
L'émission d'info locale.
Brest. Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans C'est vous qui le dites. Alors aujourd'hui, pas d'invité autour de la table, mais on vous propose d'écouter le programme de Radio Campus Orléans, radio qui fait partie de notre réseau. Itamar Greenberg et Sol Béar Tsalik sont deux jeunes Israéliens de 19 ans qui ont refusé de faire le service militaire à Israël à cause des massacres à Gaza. Emprisonnés à cause de leur refus et bafoués par une partie de la société israélienne, Radio Campus Orléans les a interviewés à la Bourse du Travail où ils étaient invités par le collectif orléanais pour une paix juste et durable entre les Palestiniens et les Israéliens. C'était dans le cadre d'une tournée effectuée en France du 14 au 28 novembre et plus largement internationale. Bonne écoute sur Radio U.
Engagement politique, participation citoyenne, journalisme social, liberté d'expression, décryptage d'articles, réflexion sur l'actualité. Rejoins la Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans. La Rédac Pop.
Le 14 novembre dernier, deux objecteurs de conscience israéliens étaient de passage à Orléans. Itamar Greenberg et Sol Béar Tsalik étaient invités à la Bourse du Travail par le collectif orléanais pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Ces deux jeunes âgés de 19 ans ont refusé de servir dans l'armée israélienne à l'heure des massacres et des bombardements commis à Gaza suite aux attentats du 7 octobre perpétrés par le Hamas. Emprisonnés en raison de leur refus, vilipendés par une partie de la société israélienne, Itamar et Sol continuent de militer avec force et sans regret pour la paix. Cette venue à Orléans s'inscrivait dans le cadre d'une tournée effectuée en France du 14 au 28 novembre et plus largement internationale. Les deux jeunes Israéliens étaient de passage dans les studios de Radio Campus Orléans pour un long entretien. Itamar Greenberg et Sol Béar Tsalik, bonjour à vous deux. Vous êtes tous deux objecteurs de conscience israéliens. Votre délit ou votre crime aux yeux de l'État d'Israël est d'avoir refusé l'incorporation au sein de l'armée dans le cadre du service militaire. Alors que l'armée israélienne était engagée dans les bombardements à Gaza après les attaques du 7 octobre perpétrées par le Hamas, pour avoir refusé votre incorporation, vous avez fait de la prison, 197 jours de prison militaire pour vous, Itamar Greenberg, 60 jours pour vous, Sol Béar Tsalik. Pourquoi avoir refusé ce service militaire et avoir été jusqu'à faire de la prison?
The question is why to go to...
La question, c'est pourquoi aller en prison pour ce que l'on croit. La réponse est dans la question. Oui, je pense que c'est la chose la plus simple et la plus basique à faire dans notre vie, de ne pas aller contre ce que nous croyons dans les droits humains et dans l'humanité. Et dans ces situations très sérieuses, ce n'est pas une petite chose que de prendre part à un génocide. Donc c'était une réponse facile pour nous. Sol Béar Tsalik, vous vouliez aussi peut-être ajouter quelque chose par rapport à cette réponse?
Non.
Tout a été dit.
It's what you have to do.
C'est ce que tu dois faire, tout simplement. Quand on réalise ça, c'est simple de le faire.
That wasn't easy, of course.
Ce n'était pas facile, bien sûr. Maintenant, je peux dire que c'est la réponse facile. Mais lorsque nous avons pensé à propos de ça avant, bien sûr que c'était très compliqué. Le mot génocide a été beaucoup prononcé sur les bombardements et les massacres opérés par l'armée israélienne depuis 2 ans. C'est un mot qui porte évidemment une très forte connotation lorsqu'on est une personne juive, lorsqu'on est une personne israélienne. C'est un mot qui est sujet à d'importants débats. Des organisations internationales comme Amnesty International utilisent ce terme. Pour vous, est-ce qu'il existe une réelle intention d'extermination de la population palestinienne par l'actuel gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou, et je précise bien le gouvernement israélien et pas l'État d'Israël en tant que population?
I think it's a complicated question. I don't think that
Je pense que c'est une question compliquée.
Yes, they want to exterminate every
Je ne pense pas que la simple réponse est
«
Oui, ils veulent exterminer tous les Palestiniens autour du monde. » Je ne pense pas que c'est la réponse exacte. Je pense qu'ils veulent nettoyer ethniquement la Palestine et ce n'est pas spécialement réservé à Netanyahou ou au gouvernement israélien. C'est la base du sionisme et de l'État d'Israël. C'est la manière dont il a été construit.
Les faits sont que They exterminate 100,000 people in
Le fait est qu'ils ont exterminé à peu près 100 000 personnes en deux ans.
They definitely interested in,
Donc ils sont intéressés dans le fait de tuer des Palestiniens.
This is the short answer.
C'est la réponse courte.
I think It is, you could argue endlessly
On peut toujours débattre sur ce que le gouvernement veut. Le gouvernement est une construction du peuple. Et le peuple en lui-même ne sait pas toujours exactement ce qu'il veut, spécialement quand il ne s'agit pas d'une seule personne, mais de 8 millions de personnes. Donc oui, il y a une partie de cette population qui est absolument fière de participer à ce génocide. Il y a une autre partie qui n'est pas fière de le dire, mais qui participe quand même. Au final, ce comportement reste inexcusable. Il n'y a pas d'importance exactement sur ce qu'ils veulent, c'est ce qui se fait. Vous aviez tous les deux, respectivement, il me semble, 17 ans chacun, ou en tout cas autour de 17 ans, lorsque les attaques du 7 octobre sont survenues. Quels sentiments vous ont traversé au cours de ces terribles événements lorsque ça s'est produit ? Et je précise dans ma question aussi que vous deviez, j'imagine, savoir que vous étiez proche de devoir faire votre service militaire. J'imagine que cette question également s'est ajoutée en plus des sentiments naturels qui ont dû vous traverser aussi.
By that point, I already knew I was going to refuse military service.
À ce moment-là, je savais déjà que j'allais refuser le service militaire. Si vous voulez qu'on parle de cette journée-là, eh bien, j'avais peur, comme tout le monde dans le pays. C'était vraiment terrifiant. On ne sait pas ce qui se passe et beaucoup de choses qu'on tenait pour acquises commençaient à être questionnées et on voyait vraiment des choses horribles, très très horribles, qui arrivaient parfois à des gens qu'on connaissait. Je pense que c'est très douloureux à dire. Il y a comme, je ne sais pas, d'une certaine manière, c'était un moment prévisible. Je vous l'avais dit, bien sûr, si on continue à se comporter comme Israël le fait à Gaza, armer le Hamas, tout ça, forcément, bah, ça allait finir par exploser. Et ça a renforcé notre conviction de lutter pour la paix.
In that point, I was in a pre-military college.
À ce moment, j'étais dans une école préparatoire militaire. Bien sûr, pour moi personnellement, ça a été une journée et des jours très difficiles. Je n'étais pas dans la position où je suis aujourd'hui. Et il s'est passé deux ans. Comme je l'ai dit, je devais m'engager dans l'armée, il m'a fallu du temps pour faire le point et comprendre la réalité telle qu'elle est et à réaliser que je ne pouvais pas rejoindre l'armée. Commencer à comprendre qu'on ne pouvait pas participer à ces crimes commis par l'armée. Et puis on comprend qu'en réalité, on n'a aucune raison de s'engager dans cette armée. Justement, ce choix fait de ne pas participer à ce service militaire et donc de ne pas participer aux bombardements qui ont suivi, est-ce que ce choix a été difficile à assumer devant votre famille et plus largement devant la société ? Ou plutôt, jusqu'à quel point ce choix a-t-il été difficile ? Parce qu'on imagine bien qu'il a été difficile en termes de conséquences, mais jusqu'à quel point ça a été difficile pour vous ?
My family is ultra-orthodox, so it's not the first trouble that I'm doing for them.
Eh bien, ma famille est ultra-orthodoxe, donc ce n'est pas la première fois que je leur cause des ennuis. Ils s'y habituent, mais c'est... C'est très difficile, évidemment. Je pourrais m'enfuir de tout cela. Mon père est officier dans l'armée. Oui, les opinions politiques de ma famille sont très différentes des miennes. Et ils ne l'ont pas du tout apprécié. Au début, ils ont ignoré tout cela. Mais petit à petit, ils ont commencé à accepter la réalité. C'est ce qui allait m'arriver. J'allais en prison. Et pourtant, ils m'aiment toujours. Alors, nous sommes une famille. Nous continuons à vivre ensemble. Car c'est ce que fait une famille, je suppose. Mais dans l'ensemble de la société, c'est très compliqué. J'avais des amis, surtout de l'école préparatoire militaire. Mais je pense que ça fait partie de notre mission, de ne pas nous couper complètement de la société. Au final, nous en faisons partie, qu'on le veuille ou non. Nous n'avons pas choisi cela, mais nous sommes nés israéliens et nous essayons d'avoir une certaine influence sur cette société.
My family isn't ultra-orthodox, so I think I had it much, much easier.
Ma famille est ultra-orthodoxe, donc je pense que ça a été beaucoup plus facile pour moi.
They were very scared,
but je viens d'une famille relativement libérale. Ils étaient très inquiets, mais ce n'est pas une décision que j'ai prise sur un coup de tête. C'est quelque chose que j'ai compris petit à petit, comme si c'était déjà arrivé. Quand la décision a été claire pour moi, c'était déjà évident et je pense qu'ils m'ont accompagné dans ce cheminement. Ma mère était très très effrayée. Mais j'ai beaucoup de chance d'avoir une famille qui m'a soutenu, avec le soutien de la famille élargie, de nombreuses discussions et des amis qui m'ont contacté. En fin de compte, je me sens très privilégié. Et pour élargir la question aussi, au niveau de la société, aussi, si on sort de la famille, mais au niveau de la société également, est-ce que ça a été difficile à assumer ce choix?
They don't love us.
They definitely don't love us.
Ils ne nous aiment pas. Non, ils ne nous aiment clairement pas.
People recognize us.
Les gens nous reconnaissent dans l'État. Ils crachent sur nous.
Calling us names and
ils nous insultent et ils nous traitent comme des moins que rien.
I think the main, like probably the main repercussions we face for the decision to
refuse. Je pense que les principales répercussions de notre refus sont d'ordre social. Les relations avec nos amis, les sorties entre amis,
it's jobs,
ou encore le travail. J'ai été licencié de plusieurs emplois à cause de ma décision.
It's careers, you know.
C'est aussi la carrière.
Most, but a lot of people.
Je ne sais pas si c'est le cas de la plupart des gens, mais beaucoup construisent leur carrière à partir de l'armée. Donc je pense que c'est la principale conséquence à laquelle nous sommes confrontés.
Yeah, it's like we are now students, both of us.
Oui, maintenant nous sommes tous les deux étudiants. On va à l'université. Et c'est comme si on avait une étiquette. Quand j'entre en cours, tout le monde sait qui je suis.
Luckily, for now, I'm
heureusement
fine,
pour l'instant ça
I
va
just started, so
je viens de commencer
alors
je sais que ça va faire parler mes amis. On va parler tout à l'heure aussi de cet état d'esprit général dans la société israélienne après le 7 octobre, mais avant je voulais aussi parler de vos jours de prison. Donc vous avez tous les deux fait de la prison pour avoir refusé le service militaire. Donc je le rappelle, je l'avais dit en introduction d'interview, 197 jours de prison militaire pour vous, Itamar Greenberg, 60 jours pour vous, Saul Behard Salik. Et Itamar, vous avez aussi été emprisonné 3 jours, il me semble, pour avoir soutenu la flottille de la liberté pour Gaza. Concrètement, quel est le traitement réservé dans les prisons israéliennes lorsqu'on est identifié comme objecteur de conscience?
I have more days in prison.
Oh, j'ai encore plus de jours de prison.
Three days, but
I got arrested more times.
Combien?
I don't know, maybe 15.
Ah, je ne sais pas, peut-être 15 jours.
15 times, not
okay. So much.
Well, there was one time that I got arrested, and in the morning after in the court,
eh bien,
the guards,
une fois, j'ai été arrêté et lendemain matin, après l'audience, j'ai eu affaire aux gardes alors que je portais un t-shirt sur lequel était inscrit en hébreu et en arabe « Non à la guerre et oui à la paix ». Ils ont dessiné sur mon t-shirt une phrase qui me semblait raciste de mon point de vue en hébreu.
C'est « Am Israël Chai ». And the flag of the
Il y avait aussi un drapeau de l'État d'Israël. Et c'est quelque chose qu'ils font très souvent aux prisonniers palestiniens, aux prisonniers politiques,
But
tout
when
le temps.
They did that to me,
et personne ne réagit.
It was the first time
Mais quand ils ont fait ça sur moi, c'était la première fois que les gens en parlaient. Je suis passé à la télé et on en a parlé. Le responsable de l'administration pénitentiaire israélienne en a parlé et a renvoyé la personne qui a fait cela.
Alors
moi, je dis « Ok, mais vous faites ça aux Palestiniens. Le système le fait. »
I have more stories.
Ouais, j'ai beaucoup d'histoires à raconter.
A few times by the police.
J'ai été arrêté plusieurs fois par la police lors de manifestations et d'activités en Cisjordanie et près de Gaza. À Gaza, certaines personnes disent oui, cette fois-ci, nous appelaient Delta car c'était en même temps que la flottille.
I was only in a military prison until now. So that's very different than being arrested by the police.
J'ai uniquement été dans une prison militaire.
It's not meant to be fun for anyone. It's a punishment.
Vous savez, ce n'est pas censé être amusant pour qui que ce soit. C'est une punition.
Where they kinda wanna keep the inmates
Et puis, si
quiet,
j'ai bien compris, contrairement aux prisons classiques où l'on cherche plutôt
prison,
à faire taire les détenus, en prison militaire, on vous punit très rapidement pour vous envoyer purger votre peine avec des soldats réguliers. Plus précisément, dans la prison militaire où j'étais, il s'agissait principalement de soldats combattant en première ligne. Au moins, dans l'armée israélienne, la plupart des soldats ne servent pas en première ligne. Donc c'est dur et ce n'est agréable pour personne. J'ai eu quelque part un traitement un peu spécial de la part des gardiens, car ils savaient pourquoi j'étais là. On m'a menacé, si je parlais de politique, on m'enverrait en confinement, soi-disant pour ma propre sécurité. Et j'ai subi des traitements un petit peu rudes de la part des gardiens. Alors, le début a été très effrayant avec les autres détenus. À plusieurs reprises, j'ai échappé de justesse à des violences. Mais je pense que parce que justement on est dans ce genre de situation difficile, en se faisant crier tout le temps, en étant obligé de rester en ligne pendant 8 heures par jour, ben, il y a une forme quelque part d'humanisation qui s'opère de la part des gardiens. Et très vite, ils ont été obligés de me voir comme une personne et non plus comme ce gauchiste complètement cinglé que tout le monde leur a présenté. On leur a dit que j'étais une personne haineuse qui souhaitait leur mort. Et j'ai eu de nombreuses conversations politiques profondes avec des gens qui n'avaient jamais entendu parler d'opinions comme les miennes auparavant. Et à la fin, vous devenez une personne qui a une opinion et qu'ils respectent. Et ces personnes deviennent peu à peu déradicalisées en se libérant, en fin de compte, des fantaisies génocidaires ou de toute autre forme d'ignorance qu'ils avaient avant de parler à une personne comme moi.
I think In prison, as you are there for much time, so they start to appreciate you.
Je pense qu'en prison, plus on y passe de temps et plus on commence à être apprécié et respecté. J'ai évité de parler beaucoup de politique parce que je savais que si je le faisais, ça se passerait très mal. Mais les gens savaient qui j'étais parce qu'ils me reconnaissaient. Alors j'ai préféré m'éloigner de tout ça. Mais je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu un processus de déradicalisation ou quoi que ce soit de ce genre vis-à-vis des gardes. Je crois qu'ils ont appris à comprendre comment aimer une personne de gauche à la folie, comme quelqu'un qui me prend pour un psychopathe mais qui m'aide quand même. Ils m'aiment vraiment. C'était vraiment étrange.
You should write a book called How to Love a Leftist.
Tu devrais écrire un livre appelé « Comment aimer un gauchiste ». Mais tu sais quel est le nom du livre que je voulais écrire à propos de la prison ? The freedom of jail, la liberté de la prison. Mais peut-être que je le ferai après. Je vous vois souriant, je vous vois combatif, je vous vois avec cette envie de partager aussi ce contexte israélien, l'importance aussi que des objecteurs de conscience comme vous peuvent avoir, et ça on va en discuter aussi, mais justement je vous vois comme ça. Comment est-ce qu'on fait à votre place quand on a en plus 19 ans, c'est-à-dire la carcasse, on peut s'attendre à ce que quand on a 40 ans, 50 ans, on puisse avoir une carcasse épaisse avec l'expérience. Comment est-ce qu'on fait à votre âge pour ne pas sombrer psychologiquement quand on subit toutes ces violences en prison et dehors, cette violence aussi psychologique, quelque part. Comment est-ce qu'on fait ?
You drink a lot of beer.
That's true.
Tu bois beaucoup de bière.
I don't know what a psychologist would say about it, but I think.
Je ne sais pas ce que les psychologues en diraient, mais je crois que pour nous, la thérapie, c'est justement d'affronter la situation. Par exemple, pour nous, l'activisme, les interventions dans les administrations, le soutien aux Palestiniens et être protégé pour notre présence sur le terrain. C'est le peu que nous pouvons faire pour ressentir la même chose et lutter contre l'injustice dont nous sommes témoins. Et je pense que c'est ce qui nous permet de tenir le coup et de trouver le sommeil. Et je pense aussi que c'est un sentiment d'appartenance à une communauté. On se sent très marginalisé dans la société israélienne traditionnelle, mais les communautés que nous créons les uns pour les autres sont comme des batteries. J'avais une question aussi par rapport à la société israélienne depuis le 7 octobre. L'avant et l'après 7 octobre, en fin de compte, on le perçoit, on le ressent. De l'extérieur, on a l'impression, d'un certain point de vue, ou en tout cas dans une partie de cette société israélienne, d'une certaine déshumanisation de la figure du Palestinien au regard des actes inhumains aussi qui ont été perpétrés le 7 octobre. Et est-ce que le regard d'humanité envers les citoyens et citoyennes palestiniens et palestiniennes, est-ce que ce regard d'humanité existe encore dans une partie quand même de la société israélienne? Et de votre point de vue, comment ce regard a-t-il évolué depuis le 7 octobre?
From the Israeli side?
Yes.
Well, that I think what's happening for 2 years now, but not only for that years also.
Eh bien, je pense que c'est ce qui se passe depuis 2 ans maintenant, mais pas uniquement depuis 2 ans, depuis bien plus longtemps. L'histoire de cet État est un processus de déshumanisation du peuple palestinien. Je pense que c'est ce qui nous mènera au génocide au final.
Yes, there is a big amount of people in Israeli society.
Oui, il y a beaucoup de gens dans la société israélienne qui considèrent les Palestiniens comme des animaux.
Worse than animals.
Leur vie est moins importante que celle des animaux. Mais est-ce qu'il existe quand même un espoir dans cette société? Est-ce qu'il y a quand même, vous le représentez, vous l'incarnez aussi quelque part, est-ce qu'il y a quand même une partie de cette société israélienne qui refuse ce processus de déshumanisation et qui continue de voir le voisin palestinien comme un semblable, comme un frère ou comme une sœur, c'est-à-dire en humanité tout simplement? Alors, on est pessimiste, oui.
I'm definitely hopeful and I'm optimistic. I think
je suis résolument optimiste et plein d'espoir.
To be hopeful and optimistic.
Je pense aussi que c'est important d'être optimiste et plein d'espoir. Ça donne la force de se battre pour un avenir meilleur. Et puis peut-être tout simplement parce que je ne suis pas naïf.
But I think there's definitely hope. I think
je crois qu'il y a vraiment de l'espoir. Je pense que la société israélienne doit changer fondamentalement à un point tel qu'on ne pourra peut-être plus l'appeler ainsi. Mais je pense que c'est tout à fait possible, même si cela prendra du temps, etc. Le changement est tout à fait possible. Ouais, je sais pas.
I want to agree with him with all. But I don't think I'm optimistic. I think
j'aimerais être d'accord avec Saul, mais je ne pense pas que je suis optimiste. Je ne fonctionne pas avec l'espoir. Je n'ai pas beaucoup d'espoir. Je pense que nous résistons parce que nous devons le faire. Et c'est parfois cette résistance qui porte en elle l'espoir. C'est difficile à expliquer. Je ne sais pas comment expliquer logiquement comment cela peut se produire et comment l'avenir peut être meilleur. Mais je sais que ça arrivera un jour, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais juste pas comment, car il n'y a pas de solution miracle, comme si nous pouvions continuer ainsi indéfiniment. L'État d'Israël est un État d'apartheid.
What's happening in the Israeli society.
Cela fait partie de la propagande qui est là depuis toujours et qui n'est pas nouvelle.
And it's not new. And I think it's a big fight.
Je pense que c'est un gros combat.
It will be fine.
Mais oui, ça ira bien. J'aimerais aussi vous poser quelques questions sur votre tournée et plus généralement aussi sur les pays étrangers, notamment, et l'action des pays étrangers par rapport aux événements que nous voyons maintenant depuis 2 ans. D'abord, votre venue à Orléans donc, s'inscrit dans le cadre d'une tournée en France du 14 au 28 novembre, donc avec différentes conférences, des échanges citoyens et des rencontres étudiantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance pour vous de venir en France pour témoigner au cours de ces 2 semaines?
It's very important. It's
très important. Ça fait partie de notre travail qui consiste à sensibiliser, à mobiliser et à résister, ainsi qu'à œuvrer activement pour la construction de la paix. C'est donc un grand privilège d'être en France. Certains de nos camarades se rendent également en Italie ce mois-ci et nous serons présents dans toute la France. C'est un privilège de pouvoir échanger avec toutes sortes de petites organisations et de communautés et de leur parler de la situation et solliciter leur soutien dans la résistance. Je ne sais pas, parler aux gens et ressentir, j'ai le sentiment que ça donne une forme d'appartenance à une communauté.
Israel is part of the Western world. Israel is committing genocide.
Israël fait partie du monde occidental. Israël commet un génocide et je pense que nous avons une responsabilité. Nous sommes ceux qui laissent cette situation se produire et je pense que chacun partout devrait résister. Les gens d'ici font cela depuis maintenant 2 ans et je pense qu'il est important de développer notre réflexion et ainsi de mieux comprendre la réalité. Et c'est toujours agréable de parler aux gens et de voir la résistance. Vous êtes de passage à Orléans sur ce jour d'entretien. L'occasion pour moi de revenir aussi un peu sur l'antisémitisme et votre regard aussi sur la question de l'antisémitisme. On sait qu'il y a régulièrement des accusations d'antisémitisme envers les personnes qui manifestent contre les massacres à Gaza, contre la colonisation en Cisjordanie. On peut l'observer sur les campus américains, on peut l'observer en France aussi. Vous êtes tous les deux juifs et israéliens. Quel est votre regard sur l'antisémitisme et sur ces accusations qui peuvent parfois être adressées à des militants pro-Palestine? Et je vais ajouter aussi autre chose, c'est qu'on a une montée aussi de l'antisémitisme tel qu'on l'entend, c'est-à-dire il y a eu une progression aussi des actes antisémites en France. Ça a quadruplé entre 2022 et 2023 et on est resté sur à peu près le même nombre d'actes antisémites recensés en 2024. Et à Orléans, on a eu aussi une agression physique envers le rabbin au mois de mars dernier, agression physique violente aussi. Donc c'est aussi ces deux pans à la fois, ces accusations d'antisémitisme envers des personnes qui luttent pour la cause palestinienne et de l'autre côté, cette montée des actes antisémites qu'on vérifie véritablement avec des chiffres concrets.
Antisémitisme est un problème.
L'antisémitisme est un problème et c'est horrible de la même manière que toutes les formes de racisme. Ça existe véritablement, ça existe bel et bien. L'antisémitisme a existé pendant longtemps et malheureusement il existera probablement encore certains temps. Il existe partout et particulièrement en Europe. C'est très différent de l'antisionisme, ce sont 2 choses différentes. Et nous devons faire de notre mieux pour les distinguer, car beaucoup de gens voudront les confondre. Ce sont 2 choses différentes. On peut être sioniste sans être juif. On peut être juif sans être sioniste. On peut être l'un ou l'autre.
Zionism is an ideology.
Le sionisme est une idéologie que je considère comme mauvaise. Et il est acceptable de critiquer les gens qui adhèrent à cette idéologie, en particulier quand ils se comportent très mal. Il n'est pas acceptable de critiquer les gens pour leur nature. Et je trouve ça assez agaçant que l'antisémitisme soit souvent corrélé à l'État d'Israël, car plus Israël commet d'atrocités, et plus certains en profitent pour faire monter l'antisémitisme, et les crimes haineux se sont multipliés depuis le début de la guerre. Donc du coup, ça complique les choses, mais nous devons faire tout notre possible pour bien faire comprendre que l'antisémitisme est un problème qu'il faut éradiquer. Et le sionisme aussi, peut-être. Et nous devons d'abord lutter fermement contre les deux. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Et donc, vous vous inscrivez en faux contre, par exemple, les propos de l'ancien Premier ministre français Manuel Valls lorsqu'il dit que l'antisionisme, c'est l'antisémitisme justifié, par exemple.
That the anti-Zionism is justification?
Yes.
For...
No.
So, you disagree?
Yes, we disagree.
No,
nous ne sommes pas d'accord.
You want to add what you wanted to say?
I wanted to say that this is not something that happens accidentally. This is a purposeful move.
C'est une manœuvre délibérée. Je sais qu'en Israël, on essaye de faire coïncider ces deux choses. Et c'est une manœuvre délibérée à l'échelle mondiale, aussi bien de la droite que de la gauche, pour tenter de les confondre.
Non.
It's not okay to be racist. On vous sent confus par rapport, effectivement, à ces déclarations. Question également... J'en ai encore trois dernières et puis on aura terminé. Comment est-ce que vous percevez les réactions des différents États étrangers et en particulier donc européens et de la France au cours des derniers mois par rapport à la situation donc de Gaza et notamment la reconnaissance aussi de l'État de Palestine récemment par la France? Est-ce que pour vous aussi c'est un signal positif selon vous?
Well, I remember that the day that Macron announced the recognition, I was...
Je me souviens du jour où Macron a annoncé la reconnaissance de l'État de Palestine. J'étais ivre. Mais c'était important pour moi de tweeter à ce sujet. Et je crois que j'avais tweeté quelque chose du genre « Bien sûr qu'on apprécie ce geste. C'est une mesure importante. » Mais ce n'est pas vraiment la question. La question, c'est que les déclarations et les prises de position ne suffisent pas en temps de génocide pour reconnaître la nation qui est exterminée. Ce n'est pas suffisant. On doit arrêter le génocide. Et je pense que parfois, on a l'impression, encore une fois, qu'il faut trouver un prétexte pour ignorer tout le reste.
I think the world don't do enough.
Je pense que le monde n'en fait pas assez.
Si
le monde et notamment ses dirigeants avaient voulu que cela n'arrive pas, ça n'aurait pas été le cas. Alors, bien sûr, les États-Unis sont une très grande puissance, mais l'Europe aussi a une influence considérable sur Israël. Et je pense que nous devrions tout faire pour boycotter Israël, l'isoler, l'exclure de toute compétition, comme le football ou le sport en général. Bref, tout ce qu'il faut pour lutter contre l'État. Same as Russia, by example. Comme la Russie, par exemple.
Je pense même
qu'il faut faire plus. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font à la Russie, mais bien sûr, nous devons faire tout notre possible. Est-ce qu'on peut aussi vous poser la même question, Saul Béard, ou est-ce que votre camarade a suffisamment répondu?
I'm mainly in agreement. Like,
bien évidemment, il n'y a rien de négatif à propos de cette reconnaissance, mais nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire beaucoup plus. Et cette reconnaissance ne doit pas être un prétexte pour ne rien faire.
And I think
Et je tiens à préciser que cette exclusion d'Israël, c'est une répercussion. Ce n'est pas pour s'amuser. Et nos adversaires diront que c'est pour des raisons antisémites ou autres, mais c'est une conséquence des agissements de l'État. Et quand il cessera ses pratiques, alors ok, il sera de nouveau le bienvenu à l'Eurovision ou ailleurs. Et encore une fois, ces interdictions, ce boycott, ces désinvestissements sont très différentes du fait d'attaquer des rabbins, par exemple. C'est très différent.
Yeah, I think that.
Oui, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Oui, je pense que la lutte contre l'antisémitisme fait partie de la lutte contre le racisme, la même lutte contre Israël et le sionisme. C'est lutter contre le fait de juger les gens sur leur ethnie et contre le fait d'assassiner ces mêmes personnes. Et je pense que les gens perçoivent parfois cela comme la lutte contre l'antisémitisme et comme le fait de protéger des personnes juives, mais ce fait ne doit pas leur permettre de faire n'importe quoi à cause de l'Holocauste. Alors maintenant, on dit souvent « plus jamais ça », mais surtout pour les personnes juives. Mais si des personnes juives veulent commettre un génocide ou entrer dans une guerre civile, pour vous donner un exemple, je me souviens d'un événement qui s'était produit et où tout le monde avait dit « plus jamais ça », les partisans comme les opposants ont tous dit « plus jamais ça ». Alors, certains pensent que c'est « plus jamais ça » pour les personnes juives et d'autres « plus jamais ça » pour tout le monde. Et c'est notre combat. C'est un combat pour les droits humains de tous, y compris pour les Juifs, les Palestiniens et tous les autres. J'arrive sur l'avant-dernière question. À plusieurs reprises au cours de l'histoire, on a pu avoir l'espoir d'une solution pacifique et durable se dessiner entre Palestiniens et Israéliens. On pense notamment aux accords d'Oslo en 1993 qui sont tombés à l'eau après l'assassinat d'Yitzhak Rabin, ancien premier ministre israélien. Pensez-vous que l'espoir d'une cohabitation pacifique existe encore ? Et si oui, sous quelle forme ? Alors je vais préciser un peu, parce que j'ai entendu notamment deux types de solutions qui peuvent s'envisager. La première, celle qu'on entend régulièrement, c'est la solution à deux États. La deuxième qu'on entend, notamment de la bouche de la députée européenne Rima Hassan, donc députée de la France Insoumise, elle explique qu'il faudrait un État unique, binational, démocratique et laïque. Pour vous, voilà, comment est-ce que cette cohabitation entre Palestiniens et Israéliens pourrait se dessiner à long terme si on arrivait enfin à faire la paix ?
Where to sign ?
Où est-ce qu'on signe ?
This is your solution.
C'est la solution que vous voulez ?
You want to...
It's more complicated than that, but...
C'est plus compliqué que ça.
Absolutely.
Mais idéalement, absolument.
Religion shouldn't be part of nation building.
La religion ne devrait pas influencer la construction d'une nation, ni les groupes sociaux, ni les groupes ethniques.
We have to go through a two-state solution before we go to a one-state solution.
Personnellement, j'ai le sentiment, et je suis inflexible, qu'il faut d'abord passer par une solution à deux États avant d'envisager une solution à un seul État. Je pense qu'il faut laisser les Palestiniens libres de leur choix et de leur souveraineté, et ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons obtenir leur consentement pour une solution à un seul État. D'ici là, il me semble très difficile d'éviter qu'ils y soient contraints. Et une fois que ce sera fait, il sera difficile de revenir en arrière. Mais idéalement, ça me semble être mon objectif final aussi. Je ne suis pas sûr qu'il devrait y avoir de frontières. Dernière question, avant que l'on se quitte et qu'on vous laisse enfin aller à cette conférence que vous allez nous préparer à Orléans. Est-ce que vous avez un appel à lancer, pour suivre sur la question qu'on avait posée tout à l'heure, aux différents États européens, en particulier à l'État français, à Emmanuel Macron, au gouvernement français ? Est-ce que voilà, vous avez un appel fort, quelque chose, un message à adresser au gouvernement français et peut-être plus généralement aussi à nos auditeurs et auditrices peut-être qui peuvent aussi vous écouter.
I will answer that, but before I want to say about what Saul say.
Je vais répondre à ça, mais avant, je tiens à préciser que je ne suis pas certain que nous soyons d'accord sur tout, même si je pense que nous le sommes sur la plupart des points. Je suis très très inquiet pour la pérennité de l'État d'Israël. Je pense qu'Israël et le sionisme nous donnent suffisamment de raisons de ne pas y croire. Et je pense bien sûr que tout doit être décidé par le peuple. C'est le plus important. En fin de compte, nous devons soutenir ce qui apportera la liberté, l'égalité et la justice à tous les peuples par la décision du peuple. Et j'espère que ce sera le cas.
Keep fighting for peace and justice.
Continuez à lutter pour la paix et la justice. Je suis optimiste. Arrêtez d'armer le gouvernement israélien, combattez l'antisémitisme dès qu'il se manifeste. Ouais, continuez de vous battre et gardez la tête haute.
La Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans.
Cette interview est à retrouver en podcast sur le site laredacpop.org. Notre média participatif et citoyen vous propose très régulièrement de nouveaux contenus écrits et radiophoniques. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours le samedi à 15h sur le 88.3 FM, pour une nouvelle émission. On vous laisse avec les programmes musicaux de Radio Campus Orléans. Passez un très bon week-end.
Engagement politique, participation citoyenne, journalisme social, liberté d'expression, décryptage d'articles, réflexion sur l'actualité. Rejoins la Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans. La Rédac Pop.
C'était une interview de Radio Campus Orléans qui fait partie de notre réseau Radio Campus. Merci d'avoir écouté C'est vous qui le dites sur Radio U 101.1. On se retrouve demain, 18h. Salut !